si tu peux me mettre ça là-bas, s'il te plaît. Voilà. Ça y est, là, je suis en ligne. Oui, et donc, il est parlé de la pluie de l'avant-saison et de la pluie de l'arrière-saison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au début, au moment où il y avait les semences, il fallait une pluie pour que les semences puissent entrer dans la terre et germer dans la terre. Et donc, Dieu a envoyé une pluie de l'avant-saison, donc généralement vers l'automne. Et ensuite, vous savez, j'ai vécu au Burkina Faso et j'ai travaillé dans une ONG il y a plusieurs années de cela. Et on travaillait justement avec les paysans par rapport aux récoltes. Et c'est intéressant de voir que bon, les saisons sont beaucoup plus raccourcies, hein, surtout au nord du Burkina, parce que c'est assez sec. Et donc, ils font des cultures qui vont durer sur 2 mois très rapidement. Mais ils attendent les premières pluies pour pouvoir commencer à semer. Et dès qu'ils commencent à avoir une pluie un peu consistante, là, ils commencent à semer, mais il faut que cette pluie arrose. Et ensuite, il y a certaines pluies, donc ça croît. Mais ce qui arrive parfois, hein, c'est que la saison des pluies est beaucoup plus courte et il n'y a pas les pluies de fin de saison. Et tu peux avoir ta récolte qui est pratiquement arrivée à maturité et elle va brûler sur place. Et tu perds toute ta récolte. Et ça, c'est terrible. Quand la saison des pluies s'arrête trop tôt, il y a plusieurs problèmes. Quand elle démarre trop tard, quand elle s'arrête trop tôt, quand elle se coupe trop. Donc c'est un combat permanent. Mais là, le Seigneur dit qu'il va envoyer la pluie de la première saison pour faire grandir, germer les semences, commencer à croître la plante, commencer à porter le fruit, et ensuite la pluie de l'arrière-saison qui est importante pour amener à maturité le fruit pour qu'il soit comestible. Et ça nous parle spirituellement de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Tu vois, il y a un temps où Dieu envoie la pluie dans ta vie pour faire germer les semences de sa parole dans ton cœur, pour commencer à te faire grandir dans sa parole, à te faire grandir avec lui, à te faire marcher avec lui. Mais il y a des temps où il y a peut-être de la sécheresse, et le risque c'est toujours de brûler sur pied peut-être. Et tu te sens oppressé, tu sens que les difficultés sont grandes, mais Dieu est fidèle pour envoyer la pluie de l'arrière-saison. Mais pour ça il y a une condition, et le Seigneur dit, voilà, j'enverrai, je serai fidèle, dans ta vie je vais envoyer la pluie de la première saison, de l'avant-saison et la pluie de l'arrière-saison, à condition, une chose, ce n'est pas des conditions difficiles, mais Dieu dit, voilà, à condition que vous obéissiez à mes commandements, mais que je vous donne en aimant l'Éternel, votre Dieu, et en lui rendant un culte de tout votre cœur et de tout votre être. Et ça, c'est ce que le Seigneur nous dit encore aujourd'hui. Voilà, aime-moi de tout ton cœur et de tout ton être, et tu vas voir la bénédiction de Dieu se multiplier dans ta vie. La pluie de l'arrière-saison, et Dieu va prendre soin de ces semences qu'il a mises dans ta vie, et il va prendre soin des différents domaines de ta vie aussi. Et il va y avoir une abondance. Alors, je ne prêche pas l'évangile de la prospérité, hein. Ce n'est pas que vous allez être milliardaire, etc. Mais vous allez avoir le shalom de Dieu, c'est-à-dire rien de cassé, rien qui manque. Et comme a dit Daniel, tout le nécessaire pour accomplir le plan de Dieu et au-delà pour bénir et au-delà aussi pour vous réjouir. Et dans tous les domaines de vos vies, matériel, financier, mais aussi spirituel et émotionnel. Et c'est ça que Dieu veut pour nos vies. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des difficultés et des moments difficiles, mais Dieu va envoyer en son temps la pluie nécessaire pour arroser ce qu'il a planté en toi. Alors, pour ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur nous dit, voilà, c'est pas une question de faire beaucoup d'efforts comme en Égypte, où tu devais tourner les pieds, t'assurer que l'eau arrivait, irriguer, parce que je m'occupe de l'eau. Mais il y a une chose que tu dois faire, c'est cultiver ta relation avec Dieu. Vous voyez, dans nos villes, très souvent, ce que nous, on veut faire, c'est cultiver le jardin de Dieu à sa place. Et on commence à prendre toute l'initiative. Oh, voilà, ah, je sens que pour ma vie, ce plan de carrière est formidable, je vais faire ceci et cela. Et on s'agit dans beaucoup de directions parce qu'on veut cultiver nous-mêmes le jardin de Dieu. Mais le Seigneur, il t'a créé. Il sait ce qui est bon pour toi. Il est le jardinier. Il sait au moment où il doit planter, il sait au moment où il doit arroser, il sait au moment où ce qu'il doit arracher, les mauvaises herbes de ta vie, il sait quand il doit émonder un arbre pour qu'il porte plus de fruits. Il sait toutes ces choses. Le problème, c'est que dès que voulons prendre l'initiative pour maîtriser les choses dans notre vie, on ne laisse pas le jardinier faire. Et très souvent, on sait beaucoup moins bien que Dieu ce qui est bon pour nous. Et donc, Dieu est le jardinier qui t'a créé et qui prend soin du jardin, de ton cœur et de ta vie. Mais ce que tu dois faire, c'est toi cultiver ta relation avec Dieu. Demeurez en moi et je demeurerai en vous et vous porterez beaucoup de fruits. Ça, c'est une parole qui est dans Jean 15, où le Seigneur nous invite à cultiver cette relation, à l'aimer, à chercher sa face, à le connaître et à travailler cette relation. Et quand tu fais ça dans ta vie et tu mets Dieu à la première place, Dieu va prendre soin du reste aussi. Amen. Donc, lui remettre toute chose. Alors là, je vais prendre, essayer d'illustrer ça. Vous savez, le mot péché, alors souvent, et c'est juste, le péché, il y a les péchés dans nos vies, et il y a des choses très concrètes, l'adultère, le vol, plusieurs choses, mais on a souvent cette image du péché. Alors on se dit, oh mais moi, j'ai pas commis toutes ces choses-là, ma vie est bien, comme a dit Daniel tout à l'heure. Et on a tendance à penser qu'il n'y a pas de péché. Mais vous savez, la racine du mot péché en hébreu, un des mots qui est utilisé pour péché en hébreu, ça veut dire manquer la cible. Alors que ça veut dire manquer la cible. Alors Jean-Luc, je vais solliciter Jean-Luc là, qui fait semblant pas de me voir. Rien. Voilà, imaginez que je suis un champion du monde de tir à l'arc. Je sais, il faut un effort d'imagination pour ça, mais bon, faites-moi confiance. Voilà, je suis champion du monde de tir à l'arc, et Jean-Luc, qui rêve depuis toujours, Annette me l'a dit, de tirer à l'arc, voilà, il vient me voir pour que je lui donne des leçons de tir à l'arc. Donc, bon, alors je viens voir Jean-Luc, tu veux apprendre à tirer à l'arc?
Oui.
Bon, alors on va commencer un premier exercice. Tu vois, on va commencer un exercice pas trop difficile. Mm-hmm. Voilà, au-dessus de l'extincteur, là, tu vois le petit signe qu'il y a. Hein. On va commencer à viser ça.
Ouais.
Et puis on va tirer ensemble à l'arc. Non, tu attends. Tu attends. Oui, il est impatient. Et puis Jean-Luc, Jean-Luc, il dit non, c'est trop petit, là, je peux pas le réussir. Et Jean-Luc, il me dit, oh, moi j'ai envie de tirer dans le haut-parleur, là. C'est plus gros, c'est plus près, j'ai bonne chance de réussir.
Tu peux, j'attends ça.
Oui. Voilà. Ouais. Mais donc, il faut que j'arrive à convaincre Jean-Luc. Mais non, ça c'est pas la cible que j'ai fixée pour toi. La cible, elle est là, Jean-Luc. Alors, finalement, j'arrive à convaincre Jean-Luc. Non. Tu viens, tu tires ici.
OK.
Voilà. Mais non, tu attends. Oh. Maintenant, voilà, on va tenir l'arc ensemble.
Ouais.
Voilà, alors prends l'arc.
Ouais.
Et je vais mettre mes mains sur tes mains. Et on va tirer ensemble. Mais bon, Jean-Luc, il veut pas. Il dit, non, c'est moi qui dois avoir mes mains sur tes mains.
Ouais, allez.
Voilà. Et vous voyez, ça illustre ce que souvent nous faisons avec Dieu. Deux choses. Quand j'ai dit à Jean-Luc, voilà, c'est cette cible qu'on va viser. Il doit écouter le champion du monde de tir à l'arc, que je suis. Mais il préfère viser sa cible. Et souvent dans notre vie, on est comme ça. On dit, oh, mais la cible de Dieu pour ma vie, c'est trop difficile. Oh, ça va être, il va falloir avoir des contraintes. Et moi, je préfère, je sais ce que je veux faire de ma vie. Voilà, j'ai mon plan de carrière, je sais ce qui est bon pour moi. Et je vise ma cible. Et c'est évident que même si tu es un bon tireur à l'arc, tu vas peut-être toucher cette cible. Hein, peut-être que. Oui, c'est bon. Merci. Ouais. Voilà. Hein, vous pouvez vous inscrire sur la liste pour les cours après ça. Et donc, peut-être que tu es même un bon tireur à l'arc dans ta vie. Tu arrives à bien réussir dans ta vie professionnelle, relationnelle. Mais tu vas être à côté de la cible de Dieu. Et à un moment donné, tu vas sentir que tu es coupé de Dieu parce que tu as visé ta cible et pas la cible de Dieu. Et la cible de Dieu était différente pour ta vie. Et pendant un temps, peut-être ta vie semble aller, les choses vont bien. Et à un moment donné, les difficultés arrivent. Et parce que tu es parti sur ta voie, tu t'es éloigné de Dieu, tu es passé à côté, tu sens plus la joie en toi. Et peut-être les difficultés arrivent et tu n'es pas capable de faire front avec les difficultés. Et tu commences à être submergé. Mais si tu as choisi la cible de Dieu, et si tu acceptes aussi que Dieu mette ses mains sur toi et te dise comment tenir l'arc et comment accomplir les choses par sa grâce, ça va changer toute ta perspective. Et crois-moi, quand Dieu pose ses mains sur ta vie, il est puissant pour atteindre même une cible plus petite que celle-là. Parce qu'il est champion du monde de tir à l'arc. Ce que je ne suis pas. Ça va? Vous comprenez ça? Manquer la cible, il y a deux possibilités. C'est en visant notre propre cible. Je veux avoir le contrôle sur ma vie. Et quand tu déclares ça, Dieu ne peut pas intervenir dans ta vie. Et je sais que moi, j'ai été beaucoup comme ça. J'ai un esprit de liberté et d'indépendance. Et, oh, Dieu, là, ne me fatiguez pas avec Dieu dans ma jeunesse. Je veux voyager, je veux être libre, je veux faire ce que je veux dans ma vie. Et ça empêche Dieu d'intervenir sur ta vie. Mais Dieu est fidèle. Et si tu laisses Dieu prendre en main ta vie progressivement, tu vas devoir lâcher des choses dans le domaine de ton indépendance, de ta liberté. Mais sache que Dieu connaît le meilleur pour toi. Ça, tu dois accepter ça. Ça, je sais que c'est dur, c'est souvent un verrou, là. On dit, mais moi, je sais ce qui est bon pour ma vie. Voilà, c'est faire tel plan de carrière, c'est épouser telle épouse, et puis faire ceci et cela. Mais Dieu sait ce qui est bon pour ta vie. Dieu connaît le meilleur pour toi. Et tu dois être convaincu de cela. Parce que si tu ne crois pas que Dieu connaît le meilleur pour toi, bien sûr, tu ne vas pas accepter, tu vas être comme Jean-Luc là tout à l'heure. Enfin, je l'ai un peu forcé quand même. Mais il ne voulait pas que je mette mes mains sur lui parce qu'il pensait qu'il avait le meilleur. Il pensait que lui était capable de faire. Il voulait tirer là parce qu'il pensait que c'était le meilleur. Mais tu dois accepter de croire que Dieu a le meilleur pour ta vie. Non seulement Dieu a le meilleur pour ta vie, mais Dieu a la puissance d'accomplir le meilleur pour ta vie. C'est deux choses qu'il nous faut accepter. Vous voyez, on parle souvent de la foi, mais qu'est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est juste de croire que Dieu existe? Oui, en Jésus, oui, c'est un homme, il est venu et il a fait de grands miracles. Ou est-ce que c'est accepter de s'appuyer sur Dieu? Accepter sa cible pour ma vie et accepter qu'il mette ses mains sur mes mains et qu'il dirige mes pas dans ma vie. Et ce n'est pas quelque chose qui te rend esclave, parce qu'il y a une liberté là-dedans, mais c'est quelque chose où tu dois renoncer à certaines choses dans ta vie et accepter que Dieu intervienne dans ta vie et prenne le contrôle de ta vie, mais pour ton bien et pour sa bénédiction sur ta vie. Vous savez, il y a une parole dans l'épître de Jacques où il dit, oh voilà, il parle de personnes qui disent, oh ben demain nous irons dans telle ou telle ville et nous trafiquerons et nous gagnerons. Et Jacques leur dit, mais qui es-tu toi qui ne sais pas de quoi demain sera fait? Tu devrais dire, mais si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. Alors nous, on aime bien ce Dieu le veut. Oh, voilà, j'ai décidé de me marier avec cette personne. Si Dieu le veut. Non, si Dieu le veut, tu te marieras avec cette personne. Si Dieu le veut, mais tu dois considérer quelle est la volonté de Dieu d'abord et accepter de découvrir et de connaître la volonté de Dieu pour la pratiquer en toi. Osée 6.3. Alors, je vais juste vous le lire. Voilà. Oui, cherchons à connaître l'Éternel. Efforçons-nous de le connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et il viendra vers nous comme la pluie, comme les ondées du printemps qui arrosent la terre. Vous voyez, encore la pluie, les ondées du printemps qui arrosent la terre. Qui peut espérer voir quelque chose pousser si ce n'est pas arrosé, s'il n'y a pas d'eau? Et dans ta vie, c'est pareil. Tu peux croître pour un temps, tu peux développer des choses pour un temps, mais si l'eau de la bénédiction de Dieu et de la grâce de Dieu n'est pas là, tu ne pourras pas arriver à maturité dans ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Connaître l'Éternel, apprendre à connaître qui il est, apprendre à connaître sa volonté et apprendre à connaître comment il travaille. Et ensuite, ça c'est une question de révélation. Tu sais, tu peux connaître beaucoup de choses sur Dieu, tu peux même connaître son caractère, mais ça, c'est la révélation. La révélation, c'est connaître qui est Dieu et sa volonté. Mais suppose que, par exemple, voilà, je dis allez, à Françoise, voilà, j'ai une révélation pour toi, Françoise, et demain, tu dois partir en Chine comme missionnaire. Alors, tu vois, déjà son mari, il fait la grimace. Bon, peut-être qu'elle est contente, mais... voilà. Bon, alors, supposez que c'est vraiment la révélation de Dieu. Hein, mais... cette révélation de Dieu, elle va écraser Françoise parce qu'elle va dire, oh là là, mais moi je ne suis pas prête. Et il en est ainsi aussi. Tu sais, on veut souvent savoir beaucoup de choses avec Dieu. Et beaucoup de gens veulent des prophéties et savoir de quoi sera fait ma vie. Mais la révélation seule ne te permet pas de porter et d'accomplir la volonté de Dieu. Il faut l'acceptation. Et l'acceptation, elle ne vient pas de la révélation. Tu peux avoir toute la connaissance et tu peux entendre Dieu te parler clairement dans ta vie, mais si tu te limites à la révélation, c'est quelque chose qui va t'écraser, parce que tu n'as pas la force de l'accomplir. Et il faut que tu aies une relation avec Dieu, où Dieu va travailler ton cœur, où Dieu va répandre son amour dans ton cœur, et Dieu va te permettre d'accepter sa volonté pour ta vie. Et ça, c'est tout un travail, on en parlera tout à l'heure, de prière, de proximité, d'intimité avec Dieu, où la volonté de Dieu, d'un seul coup, va être claire pour ta vie, et tu vas... l'accepter, pas l'accepter comme quelque chose de forcé, mais l'accepter parce que tu vas commencer à désirer, à aimer la volonté de Dieu, parce que tu vas reconnaître qu'elle est le meilleur pour toi. Et là est le combat. Là est le combat souvent pour nos vies. C'est une question de... la révélation est une chose, connaître Dieu est une chose, connaître sa volonté, mais il faut que ce soit une connaissance au sens grec du terme, c'est-à-dire une intimité, une relation avec Dieu qui te permet de recevoir sa volonté, d'aimer sa volonté et d'entrer dans sa volonté. D'accord? Donc le Seigneur nous appelle à entrer dans un nouveau pays, mais pour ça, il faut qu'on ait une relation avec lui. Il faut qu'on désire le connaître, qu'on ait une révélation, et une relation profonde avec lui, où on va l'aimer, on va désirer sa volonté. Et progressivement, sa volonté va s'imprégner en nous. Et sa volonté, non seulement elle va s'imprégner, mais elle va faire notre joie. Vous savez, je pense que chacun ici, en tout cas beaucoup d'entre nous, ont expérimenté ça. Peut-être qu'il y avait des choses, des domaines dans vos vies où vous étiez réticent et vous dites, ah non, je ne pense pas que c'est juste. Et progressivement, le Seigneur a mis ça dans votre cœur et vous avez lâché quelque chose. Et finalement, vous avez eu beaucoup de joie. Et vous avez vu la volonté de Dieu s'accomplir dans votre vie et vous avez vu que c'était vraiment ce qu'il fallait, qui était bon pour vous. Mais peut-être que c'est un combat qui a duré des mois ou des années peut-être. Mais ce combat, c'est le combat qu'on doit gagner dans l'intimité avec Dieu, dans cette relation où on développe l'amour avec Dieu et sa volonté grandit en nous et elle nous libère. Et elle nous libère dans ce qu'il y a de meilleur. Aligner nos pensées sur celles de Dieu. Il y a un passage dans la Bible, dans Ésaïe 55, qui dit « mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. » Et autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées et mes voix sont au-dessus de vos voix. Ça, c'est Dieu. Ça, tu peux être un homme très intelligent, réfléchir longtemps, mais tu auras toujours des pensées et des voix qui sont éloignées de celles de Dieu, parce que c'est la chair et l'esprit humain qui réfléchit et qui agit. Mais quand c'est l'esprit de Dieu dont nous a parlé Daniel, cet esprit que tu laisses travailler en toi, c'est différent. Et cet esprit va t'amener à aligner tes pensées sur celles de Dieu, en le connaissant, comme on a dit, quel est son caractère, sa volonté, et en sachant comment il agit. Alors, on va être capable d'aligner les priorités de notre vie sur celles de Dieu. Aligner nos pensées et nos priorités sur celles de Dieu. Ça, c'est quelque chose de difficile, hein, souvent, parce que on n'aime pas que quelqu'un d'autre nous dise « quelles sont nos priorités, quelles sont ce qui est bon pour nous. » Mais c'est là qu'est le combat, mais c'est là qu'est pas un combat où tu vas perdre, mais un combat où tu vas gagner. En lâchant, tu vas gagner. Prenons un exemple. On parle beaucoup de pluie, hein, donc vous avez vu la pluie de l'avant-saison, la pluie de l'arrière-saison. Bon, j'aime beaucoup notre région, mais force est de constater que si tu veux bronzer au soleil, en hiver, c'est peut-être pas l'endroit rêvé pour venir, le Nord. Même peut-être au printemps, en automne, hein, on ne sait pas trop. Hein. Non, si tu veux, voilà, si tu n'as pas de problème, tu vas aller sous les tropiques directement. Hein. On est d'accord. Par contre, si tu veux planter du blé, tu ne vas peut-être pas aller au Sahara. Mais tu vas dire, mais le Nord et toute cette région, là, un peu plus au sud, la Picardie, mais ça c'est un bon endroit pour planter le blé. D'accord. C'est pareil avec Dieu. Il faut être à l'endroit où il envoie sa bénédiction. Hein, si tu veux voir la pluie tomber sur toi, ne va pas au Sahara. Et mais si tu veux voir le soleil, ne reste pas dans le Nord l'hiver. Hein, enfin, si tu as le choix en tout cas. Mais c'est important parce qu'il faut accepter d'être là où la pluie de Dieu va tomber. Là où Dieu me veut. Et il y a des temps, il y a des saisons où Dieu te veut quelque part. Et quand je dis ça, hein, je ne parle plus de la Chine hein, maintenant, comme Françoise a refusé de partir, je ne parle plus de la Chine, mais ça peut être tout simplement sur ton lieu de travail, ça peut être dans ta position familiale. Dieu veut que tu occupes une place à différents moments de ta vie où tu vas pouvoir être en mesure de recevoir sa bénédiction. Vous savez, quand le Seigneur nous a appelés à le servir, à l'époque je travaillais donc au Burkina Faso, et on avait cette promesse de Dieu qu'on le servirait. Mais il y a certaines promesses, hein, elles sont très belles quand vous les recevez, mais après quand il faut travailler avec, c'est lourd. Et on résistait à cette promesse depuis des années. Et ce travail au Burkina Faso était une bénédiction de Dieu. C'était vraiment une bénédiction de Dieu parce qu'on avait connu beaucoup de difficultés financières. C'était un travail passionnant, un travail de responsabilité, un travail pour encourager les paysans à se développer, un travail de contact, un travail magnifique, vraiment. Et j'appréciais beaucoup ce travail et j'avais beaucoup de plaisir à faire ce travail et on portait du fruit aussi. Mais progressivement, l'appel du Seigneur était de plus en plus fort. Et c'est comme s'il disait, voilà, maintenant c'est le temps de t'engager, c'est le temps de t'engager. Et au fur et à mesure que ce temps avançait, c'est comme si le travail commençait à peser lourd. C'est comme si les choses qui étaient légères dans le passé devenaient lourdes. Pourquoi ? Pas parce qu'il y avait la malédiction de Dieu, mais parce que le temps avait changé, la saison avait changé. Et j'étais plus à l'endroit, ou en tout cas j'étais en phase de plus être à l'endroit où Dieu me voulait. Et là, ça devient lourd à porter. Là, ça devient lourd à porter. C'est comme quelqu'un qui attendrait dans le désert la pluie, et Dieu lui dit, non, mais tu étais venu là pour le soleil. Maintenant, si tu veux la pluie, il faut bouger de là. Hein? Et donc, c'était la même chose jusqu'au moment où on s'est décidé à partir. J'ai pas le temps de raconter tout, mais il y a eu beaucoup de péripéties et de combats. Mais quand nous nous sommes décidés à partir et à aller nous former dans une école biblique au Danemark, donc je vous laisse penser le choc du Burkina Faso au Danemark, on n'a pas de foi. Hein? Mais quand nous avons décidé ça, le poids a été enlevé. Et il y avait à nouveau la joie et la légèreté dans nos cœurs. Et ça, c'est important. Accepter d'être là où Dieu te veut, où il a prévu de faire tomber sa pluie sur toi pour cette nouvelle saison. Et également, il faut accepter d'être là où Dieu te veut, mais il faut accepter d'être celui que Dieu veut que tu sois. Je crois que dans notre vie chrétienne, souvent, on lutte avec ça. Vous savez, on regarde, il y a beaucoup de modèles autour de nous, il y a beaucoup de choses qu'on aura envie de faire. Oh, celui-là, il prêche bien. Oh, j'aimerais faire comme lui. Oh, le frère, il prophétise bien. Ou peut-être même simplement sur ton lieu de travail, et tu dis, oh, celui-là, il parle bien, j'aimerais bien être comme lui. Mais Dieu ne t'appelle pas à être comme les autres. Dieu t'appelle à découvrir qui il veut que tu sois et qui il a prévu que tu sois. Tant que tu vas lutter pour être un autre, ça va être un poids sur ta vie. Ça va être un poids sur ta vie. Supposez que Annette et Jean-Luc m'invitent à manger. Voilà, c'est pour bientôt. Ils m'invitent à manger et comme j'ai prêché sur la bénédiction, je dis à Annette, non, Annette, je veux te bénir, je viens manger chez vous, mais c'est moi qui va cuisiner. Quelle chance, je ne sais pas, parce qu'elle n'a pas encore goûté. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une bénédiction pour elle. Vous voyez, alors je peux vouloir prendre la place d'Annette, pour le bénir même. Mais peut-être que ce ne sera pas une bénédiction, demandez à mon épouse. Donc voilà, c'est un petit exemple. Mais ne cherche pas à être dans une place qui n'est pas la tienne. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, parce que même si tu as le désir de bénir, tu ne seras pas en mesure de bénir là. Mais cherche à découvrir et à accepter d'être qui le Seigneur t'appelle à être dans ta vie. C'est là que tu seras une bénédiction. Vous savez, certaines personnes, moi je suis étonné, il y a des personnes, ils ont une capacité pour parler de la parole de Dieu, pour évangéliser, pour apporter la parole de Dieu. Et tu dis, oh, mais j'aimerais vraiment être comme cette personne, mais c'est quelque chose qui coule naturellement. Et d'autres, ils ont cette capacité à enseigner la parole. Et c'est quelque chose, bon, je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas, mais c'est quelque chose qui coule naturellement. Mais quel est ce que Dieu t'a donné d'être ? Et quand je parle de ça, je ne parle pas seulement à l'église, mais je parle dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu t'a donné d'être sur ton lieu de travail ? Qu'est-ce que Dieu t'a donné d'être sur ta famille ? Découvre ça. Et tu vas pouvoir laisser le Seigneur te transformer pour devenir celui qui veut que tu sois. Et c'est là que coule sa bénédiction. Et sa bénédiction coulera sur toi, mais tu seras aussi une bénédiction pour les autres. Amen. Voilà. Quand tu fais cela, oui, je prends un autre petit exemple. Vous savez, suppose que le Seigneur, oui, suppose qu'il y a un fruit que tu aimes bien. Hein. Alors, qu'est-ce que tu aimes bien comme fruit, par exemple ? Allez, qu'est-ce que tu veux ? En quoi ? Une poire, voilà. Mais supposons que la graine que Dieu t'a donnée pour ta vie, c'est une pomme. Et toi, tu dis, oh, la pomme, moi, j'aime pas trop les pommes, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment les pommes. Et si tu acceptes que le Seigneur fasse de toi un pommier, tu vas bénir beaucoup de gens. Mais alors tu peux dire, non, Seigneur, moi je veux être une poire, parce que j'aime les poires, et je veux être une poire. Mais peut-être qu'il y a déjà beaucoup de poires. Enfin bon, fallait choisir un autre fruit, François. Peut-être qu'il y a beaucoup déjà d'autres poiriers, et le Seigneur dit, il y a besoin d'être un pommier, parce qu'il y a besoin de pommes. Alors bien sûr, ce n'est pas une question de fruits à manger, mais le fruit que tu dois porter dans ta vie. Peut-être toi tu voudrais être un grand prédicateur, mais le Seigneur dit non, moi j'ai besoin de personnes qui vont consoler mon peuple, qui vont avoir la compassion, qui peuvent visiter les malades, qui sont capables d'apporter la paix là où ils vont. J'ai besoin que dans ta famille tu sois quelqu'un qui va réconcilier les gens. Ne cherche pas des grandes choses dans ton travail, tu es là pour réconcilier la famille, réconcilier les gens. Cherche à être, il faut pas chercher à être un autre semence, un autre fruit que ce que le Seigneur a déclaré. Parce que tu vas lutter sinon toute ta vie en vain et tu ne pourras pas être béni ni être une bénédiction. Connaître la graine que nous sommes pour porter le fruit que Dieu a prévu que nous soyons. Et dans toute cette démarche, attention, j'attire votre attention sur le fait, attention aux raccourcis. Attention aux raccourcis. Je dis cela pour peut-être des personnes qui ont même peut-être reçu, donc là je m'adresse aux gens qui déjà peut-être ont reçu des prophéties dans leur vie, et puis qui languissent après l'accomplissement de ces prophéties. Et ils disent, ah mais je vais essayer d'hâter les choses que Dieu a promises. Hein. Peut-être que tu as une promesse dans ta vie et tu veux hâter les choses. Et ça, c'est souvent un raccourci qui nous fait passer à côté de la bénédiction de Dieu. Je pensais à un exemple, ça a été un peu évoqué tout à l'heure, l'histoire de Jacob et de Ésaü. Donc Rebecca avait deux fils dans son ventre et elle a reçu une pensée claire de Dieu, une parole claire de Dieu qui lui disait, voilà, tu as deux fils et l'aîné sera assujetti au second. Et donc l'aîné c'était Ésaü, mais Jacob était le second fils. Et les années passent, Rebecca préfère Jacob, les années passent, et le père Isaac il devient vieux et il va bientôt mourir, et il y avait cette tradition, enfin c'est plus qu'une tradition, cette réalité de bénir les enfants, et il y avait vraiment une bénédiction là. Et Rebecca se dit, oh mais la prophétie de Dieu ne va pas s'accomplir, allez on va prendre ce stratagème, on va tromper Isaac, on va faire passer Jacob pour Ésaü, tout un stratagème, et elle trompe, et il trompe, elle et son fils Jacob, il trompe Isaac, il prend la bénédiction. Mais que d'épreuves après ça. Jacob est obligé de fuir le pays, il ne reverra plus jamais sa mère qui mourra avant l'heure, et il va vivre 20 ans de galère à l'étranger. C'est son oncle qui va l'exploiter, il va se marier avec... Il aimait une femme, on ne lui donne pas cette femme, on lui en donne une autre, il est trompé à nouveau. Toute cette réalité, 20 ans de souffrance, beaucoup d'enfants qui naissent de ces différentes femmes, de la jalousie entre les femmes, de la compétition avec les servantes, les enfants qui vont devenir jaloux entre eux, on sait ce qui va arriver à Joseph ensuite. Donc, vous voyez, toute une série de malheurs, au point que Jacob, à la fin de sa vie... Quand on lui demande son âge, il dit « Oh, mes jours ont été mauvais sur la terre et courts sur la terre. » Vous voyez, il y a une souffrance sur Jacob, parce qu'à un moment donné, il a voulu des raccourcis de Dieu. Et vous savez, il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup interpellé dans la parole. C'est que quand vous voyez à la fin de l'histoire de Jacob, il est sur son lit malade, et son fils Joseph amène ses deux fils. Il a deux fils. Il a menacé Ephraim. Il dit « Oh, père Jacob, est-ce que tu peux les bénir ?» Et il met la main, comme Jacob ne voit pas très bien, il met la main droite de Jacob sur l'aîné et la main gauche sur le second. Mais Jacob tourne les mains et il fait comme ça. Et Joseph est fâché, il dit non, celui-ci est l'aîné. Et Jacob lui dit oui, je sais que celui-ci est l'aîné. Mais il y aura une bénédiction pour lui, mais il y a une plus grande bénédiction pour le second. Et vous voyez, c'est comme si Dieu montrait à Jacob, voilà, rappelle-toi ce que tu as fait dans le passé. Tu as pensé que mon plan ne s'accomplirait pas. Toi et Rebecca ont pensé que mon plan ne s'accomplirait pas. Mais même à la fin de ta vie, je suis puissant, je suis Dieu pour accomplir mon plan et ma prophétie. Et il n'y avait pas besoin de forcer la main de Dieu ou de prendre des raccourcis. Mais Dieu a montré sa souveraineté. Et en rappelant ça à Jacob, je ne pense pas que c'était pour l'accuser qu'il a rappelé ça, mais c'était pour guérir sa vie de toute cette souffrance. Dieu lui disait, tu vois, je suis ce Dieu plein de compassion dans ta vie, capable de guérir toutes tes blessures, parce que je suis le Dieu qui agit en son temps, en sa saison, et qui bénit à sa façon, en sa saison. Ça va ? Attention aux raccourcis. Autre chose maintenant, on voit que c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet d'être alignés sur... Ce n'est pas des choses qu'on peut connaître avec notre intelligence, c'est l'Esprit de Dieu qui doit agir. Comment, j'ai une question, plusieurs questions à vous poser. Première question, comment est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été au niveau de l'équateur ici? Non? Comment vous imaginez l'équateur? Les zones équatoriales. Chaud, ouais. Humide. Et la végétation? Luxuriante. Super. Est-ce que des gens ici connaissent la Somalie? Non. Mais ce que vous en connaissez peut-être pas, vous la voyez comment la Somalie par rapport à ce que vous avez pu voir? Sèche, déserte, etc. Est-ce que les gens savent où se situe la Somalie?
L'équateur.
Ouais. L'équateur traverse la Somalie. Et je peux vous le dire parce que j'ai traversé ces régions, j'ai traversé l'équateur en Somalie, j'ai marché dans ces zones désertes de Somalie. Bon, il y avait toute une histoire là, mais à l'époque où je voyageais. Et c'est un désert de sable. Et ça, c'est étonnant. Tu te dis, mais non, mais là où il y a l'équateur, il fait beau, il fait chaud, il y a l'eau. Et en fait, il y a une raison à ça. Hein. Il y a une raison, c'est que les côtes de la Somalie, elles ont une telle forme que les vents, c'est la même direction que le vent. Et donc, le vent ne peut pas pénétrer à l'intérieur de la côte, à l'intérieur des terres. Il suit la côte et les vents, et donc les précipitations, n'entrent jamais. Ou très, très rarement, quelques précipitations. Par contre, vous allez 100 km au sud, vous arrivez au nord du Kenya, et la côte tourne, et d'un seul coup, vous passez du désert en moins de 100 km, vous passez du désert à la mangrove, à la végétation luxuriante. C'est toujours l'équateur, mais la cote a changé. Et vous voyez, je considérais ça et Dieu me disait, voilà, c'est pareil avec vos vies. Comment est-ce que ta vie est alignée? Est-ce que ta vie s'expose au vent de l'esprit? Et est-ce que ta vie laisse entrer le vent de l'esprit pour porter la bénédiction de Dieu dans ta vie? Mais quand tu t'exposes au vent de l'esprit, ça veut dire que tu es prêt à ce que le vent de l'esprit balaye certaines choses. Peut-être toi, tu trouves que ta végétation désertique, elle est super. Tu dis, ah non, il y a un bel acacia là, moi j'aime bien le désert. Mais Dieu dit, non, laisse entrer mon vent de l'esprit. Et il enlève et il balaye les choses que toi, tu aimes dans ta vie. Donc s'exposer au vent de l'esprit, c'est pas juste, oh, voilà, alléluia, la bénédiction. C'est accepter que le vent d'esprit, il commence à renverser certaines choses auxquelles tu penses bonnes pour ta vie, mais que le Seigneur a des meilleures, peut-être qu'il y en a qui sont mauvaises, et peut-être que le Seigneur, il en a d'autres qui sont meilleures aussi. Donc, s'exposer au vent de l'esprit, laisser entrer le vent de l'esprit, ouvrir mon cœur, pour que, et ça va bouleverser le paysage de ta vie. Tu as été habitué à un certain paysage dans ta vie, tu avais tes habitudes, tes plans, ta vision des choses. Mais quand tu t'exposes au vent de l'esprit, le Seigneur, il change ça. Et on n'aime pas tellement changer nos habitudes, nos plans et notre vision des choses. Moi, je pense que... Moi, je sais que... Moi, je veux que... Mais le Seigneur, il te dit, expose ta vie au vent de l'esprit. Laisse mon Saint-Esprit non seulement te convaincre de péché, mais te convaincre que Dieu a le meilleur pour toi. Et laisse le vent de l'esprit travailler ton cœur et pénétrer les précipitations de Dieu, mais la bénédiction de Dieu qui va arroser la terre de ton cœur et de ta vie et qui va permettre à Dieu de faire porter son fruit. Ça va? Et donc, Dieu va, quand tu te laisses exposer au vent de l'esprit, Dieu va apporter sa vie, mais pas toujours, ou même assez rarement comme tu t'y attends. Il va apporter sa vie d'une façon des fois surprenante, que tu n'aurais peut-être pas imaginé, mais qui va apporter sa bénédiction. Donc se laisser exposer au vent de l'esprit, c'est-à-dire se laisser, c'est Romains 8, 14 nous dit que tous ceux qui sont fils de Dieu, donc ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu, et vice-versa, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'esprit. Et donc, est-ce que je laisse de la place au Saint-Esprit dans ma vie pour me reprendre, pour me convaincre de péché quand je suis parti loin de la cible de Dieu, plus des péchés bien identifiés, colère, etc. Mais premièrement, ce péché qui part loin de la cible de Dieu, qui veut faire sa propre volonté. Est-ce que je laisse le Saint-Esprit guider ma vie? Et ça, c'est un défi pour nos vies. On va prendre encore un passage qui nous parle encore de ces pluies et qui nous parle aussi du Saint-Esprit. Joël 2. Donc Joël, c'est juste après Osée. Donc si vous étiez resté dans Osée, c'est bon. Joël 2, 23. Vous voyez, on a eu plusieurs passages qui nous parlent de ces pluies de l'avant-saison et de l'arrière-saison. Deutéronome 11, on a vu le passage avec Osée 6, 3. Joël 2, 23. Et vous, gens de Sion, soyez dans l'allégresse. Donc, message pour Israël. Réjouissez-vous à cause de l'Éternel, votre Dieu. Lui qui est votre Dieu, il vous envoie la pluie, selon ce qui est juste. Il répand sur vous les averses, les pluies d'automne et les pluies du printemps, tout comme auparavant. Alors, c'est intéressant parce que ça nous parle encore, tu vois, de Dieu qui va envoyer. Alors, il y a toute une signification, là, bien sûr. C'est une promesse pour Israël, que les temps de rafraîchissement vont venir, que le Saint-Esprit va être libéré sur lui, comme ça l'a été à la Pentecôte. Mais... En fait, ce texte peut être traduit de deux façons, en fonction d'un très léger changement dans le texte hébreu, et il peut être interprété de deux façons, parce que on a mis la pluie, mais en fait, une autre traduction pourrait être l'enseignant de justice. L'enseignant de justice. Et certaines traductions traduisent, voilà, et j'enverrai l'enseignant de justice. L'enseignant de justice. Et qui c'est l'enseignant de justice? Qu'est-ce qui nous enseigne les voies de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Je vous donne cette traduction-là, donc qui est dans une autre Bible. Dieu a donné un enseignant de la justice pour vous apprendre comment vivre dans la droiture. Il vous enseignera comme la pluie du ciel, comme des averses de mots et de paroles pour rafraîchir et nourrir votre âme. Ça, c'est ce que Dieu veut faire par son Saint-Esprit dans nos vies. Il veut faire venir le Saint-Esprit avec la pluie de l'avant-saison pour semer, pour germer, pour faire croître, avec la pluie de l'arrière-saison pour amener à maturité l'œuvre de Dieu dans ta vie. Mais est-ce que nous sommes prêts à laisser l'enseignant de la justice travailler dans nos cœurs ? Est-ce que nous lui laissons de la place pour faire toute son œuvre? Ou est-ce que nous disons jusqu'ici, mais pas plus loin? Et la bénédiction est à ce prix. Dans un autre passage qu'on n'a pas lu, dans Jérémie 5, il est dit, voilà, ce sont vos péchés qui vous privent des bénédictions de Dieu. Ce sont vos péchés, dans une autre version, qui tiennent à distance les bénédictions de Dieu. Voilà, les bénédictions de Dieu sont là, mais vos péchés, donc les péchés qu'on a pu citer, mais le péché, manquer la cible de la volonté de Dieu, parce que je veux faire ma volonté, parce que je ne veux pas entendre l'enseignement de justice du Saint-Esprit, parce que je ne veux pas exposer mon cœur et ma vie au souffle du Saint-Esprit pour changer le paysage de ma vie. Et ça, c'est là où se trouve le combat. Et c'est là où le Seigneur nous interpelle. Ça va pour la première partie? On va voir rapidement une autre partie où je voudrais donner quelques clés pratiques. Voilà, parce qu'on a vu un peu les grandes orientations, hein, comment Dieu nous invite à le connaître, nous invite à l'aimer de tout notre cœur, nous invite à nous exposer à son esprit. Mais dans la pratique, quelques clés qui peuvent nous aider à cultiver cette bénédiction. Et n'oubliez jamais que le but, c'est de cultiver la bénédiction de Dieu dans nos vies pour voir la bénédiction couler sur nous, mais surtout devenir un canal de bénédiction pour les autres. Quelques clés pratiques. Alors, on ne l'a pas lu, mais Jérémie 5, 24, juste avant qu'il ait dit « Ce sont vos péchés qui vous privent de la bénédiction », il est dit « Il ne demande jamais, il parle de son peuple, il ne demande jamais comment pouvons-nous honorer Dieu ». Est-ce que nous demandons au Seigneur comment est-ce que je peux t'honorer ? Comment est-ce que je peux t'honorer dans ma vie ? Est-ce que nous avons le désir d'honorer Dieu ? Est-ce que nous le demandons régulièrement ? Et est-ce que nous acceptons de le faire quand Dieu nous répond ? Vous savez, la meilleure façon de ne pas entendre Dieu nous parler, c'est de ne pas lui poser les bonnes questions. Et des fois, il y a dans la vie des questions qu'on ne veut pas trop poser à Dieu parce qu'on a peur qu'il réponde et on a peur qu'il nous dise quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Mais il sait que c'est bon pour toi et tu verras que ça sera bon pour toi aussi. Donc, comment pouvons-nous honorer Dieu ? Alors, un premier point, je dirais par la bouche et par nos paroles. Donc, notre frère Daniel, il nous a expliqué comment, par la parole, nous pouvons maudire, la puissance de la parole. Rappelez-vous que à l'origine, tout a été créé par la parole de Dieu. Genèse nous dit, au commencement était la parole, hein, enfin non, ça c'est Jean, mais Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit et que la lumière fut. Donc la parole de Dieu, elle a amené la lumière et elle a amené la vie. Mais, et ailleurs dans Jean 1, il nous est dit qu'au début, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Et qui c'est cette parole-là ? C'est qui la parole de Dieu ? C'est Jésus. Est-ce que vous avez réfléchi à ça de temps en temps ? Enfin, je vais revenir après, mais je pense que c'est important. Est-ce que vous avez réfléchi que cette Bible-là, c'est la parole de Dieu ? C'est comme Jésus. Bon, bien sûr, hein, ça dépend de ce que tu en fais. Mais souvent, moi, j'entends des chrétiens qui disent « Oh, mais moi j'aurais aimé vivre au temps de Jésus, avoir Jésus à mes côtés. » Mais non seulement tu as Jésus à tes côtés, quand tu ouvres cette parole et tu laisses l'Esprit de Dieu te parler, c'est comme si Jésus était assis à tes côtés. Est-ce que tu as réfléchi à ça de temps en temps ? Tu sais, moi, c'est quand j'ai réalisé que... Je le savais que Jésus était la parole de Dieu, mais quand j'ai réalisé ce que ça voulait dire, que Jésus est la parole de Dieu, que quand j'ouvre cette parole, c'est comme si Jésus s'asseyait à côté de moi, sur ma chaise ou sur mon lit, et il me parle. Et il sait ce qui est bon pour ma vie, et il me donne des clés et des solutions pour ma vie. Il me donne sa direction pour ma vie, et ça change ma vie. Jésus assis à côté de toi, la parole de Dieu. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais avec cette parole ? Alors, notre frère a bien montré comment avec la parole on pouvait maudire, hein. Il a donné l'exemple de Jacob, mais on voit aussi comment on peut bénir. Hein. Par exemple, la bénédiction... aux 12 tribus d'Israël, hein, dans Genèse 49, il y a plein de bénédictions qui sont dites sur les tribus d'Israël, et dont certaines, c'est très clair qu'elles, enfin, elles sont toutes réalisées, ou d'autres vont se réaliser, mais certaines sont, il est très clair qu'elles sont réalisées, comme pour Judas, où il est dit que, voilà, le Messie sortira de ton sein, etc. Donc, la parole crée la vie, et la parole est donnée pour bénir. On ne va pas le lire, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais dans Jacques, il y a tout un passage dans Jacques 3, où il est dit, voilà, ce qui est le plus difficile pour l'homme, c'est souvent de maîtriser sa langue. Alors, je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Il dit que la langue est un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. Et un petit feu peut embraser une grande forêt. Ça veut dire qu'avec la langue, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux te mettre en colère, tu peux tu peux maudire les gens, tu peux faire du mal, tu peux peiner les gens, tu peux attrister, tu peux écraser. Et Jacques dit, mais oui, voilà, la langue, c'est vraiment ce qu'il y a le plus difficile finalement à maîtriser dans le corps humain. Au point qu'il dit que celui qui tient sa langue, c'est comme s'il tenait tout son corps en bride déjà. Hein, quand, est-ce que tu arrives à maîtriser ta langue et à jamais dire un mot plus haut que l'autre ou de travers ou à te laisser gagner par la colère? Bon, je pense qu'on n'y arrive pas. Mais le Seigneur, par sa grâce, veut nous amener vers là. Et la langue, elle est là comme une source qui peut bénir les gens. Mais une source, quand tu vas dans une source, tu ne peux pas boire d'une source et puis soit elle est bonne, soit elle est mauvaise. Et Jacques nous dit, voilà, il ne peut pas sortir la bénédiction et la malédiction d'une même source. Et donc le Seigneur nous appelle à bénir avec nos langues, à bénir avec notre parole, à bénir nos frères. Quand tu vas choisir de bénir avec ta langue, tu peux d'abord déjà te bénir toi-même. Alors, on nous a parlé de toutes ces paroles négatives qu'on peut prononcer sur soi-même. Tu peux répéter des paroles qui ont été dites, oh, tu es un incapable, oh, je ne vais pas réussir. Ou alors tu peux proclamer ce que Dieu dit sur toi. Oui, voilà, le Seigneur, je sais, dans la parole, il y a des paroles très claires. Il y a des, par exemple, vous l'avez dans le psaume 139, je suis une créature merveilleuse. Peut-être pendant des années, tu as entendu, oh, mais tu es un moins que rien, un raté, mais Dieu ne dit pas ça sur toi. Il dit, je suis une créature merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse. Psaume 139. Il y a aussi le fait que tu es un fils bien-aimé. Il a dit à Jésus-Christ, il a dit à son fils Jésus, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection et qui fait ma joie. Et en Jésus, nous sommes aussi ses fils et ses filles bien-aimées, en qui il met sa joie. Donc, avec la bouche, tu peux choisir de te bénir toi-même déjà. Ça, c'est pas mal, hein, se bénir soi-même. Personne n'a envie de se bénir soi-même? Si, ça va? Tu peux te bénir aussi avec les promesses que tu as reçues spécifiquement de la part de Dieu. Il y a des promesses dans la parole qui sont pour tout croyant et que tu peux saisir par la foi. Hein. C'est pas la méthode couée, tu dois croire que Dieu proclame ça sur ta vie et tu les proclames sur ta vie. C'est pour ça que c'est important de... Si Dieu te parle par certains versets, si Dieu attire ton attention, cultive ça et régulièrement proclame-les sur ta vie. Pas comme une prière récitée, mais comme une prière de foi où tu laisses descendre la bénédiction de Dieu sur ton cœur et sur ta vie, et l'approbation de Dieu sur ta vie. Et puis il y a les promesses et les prophéties spécifiques que tu as pu recevoir de Dieu. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu honores Dieu en priant ces prophéties? Ou peut-être il a déclaré quelque chose sur ta vie. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Oh, tu dis, oh bon, le gars a dû se tromper, ça fait 10 ans, rien ne s'est passé. Ou alors tu les crois et les saisis par la foi, et tu les pries sur ta vie, et tu veux les voir s'accomplir. Tu les désires, pas parce que tu veux le désirer pour toi-même, mais parce que tu sais que c'est ce que Dieu a déclaré, et tu veux voir la volonté de Dieu s'accomplir. Tu veux voir la vérité de Dieu s'accomplir. Et tu veux honorer Dieu par cela. Donc, utiliser la bouche pour bénir, déjà toi. La deuxième personne que tu peux bénir, c'est Dieu. D'accord? Enfin, tu commençais par lui, d'ailleurs. Mais j'ai voulu juste montrer les choses très simples. Donc, d'abord moi. Mais ça, c'est bien si tu bénis Dieu, d'abord. Et donc, ça, comment tu peux bénir Dieu? Comment tu peux bénir Dieu? Oui. C'est ça, en étant reconnaissant aussi pour ce qu'il a fait. Action de grâce. Oh, merci Seigneur, voilà, tu as répondu à la prière que j'ai faite il y a tant de semaines, où tu as résolu la situation professionnelle dans laquelle j'étais, tu as répondu à un besoin de ma fille, etc. Donc l'action de grâce, qui est la reconnaissance, et ça on le fait, est-ce qu'on le fait souvent finalement? On est prompt à prier Dieu quand on a des besoins, mais souvent quand Dieu répond, on oublie de le remercier. La reconnaissance, l'action de grâce, c'est une façon de bénir Dieu avec ta bouche. La louange, alors l'action de grâce, c'est bénir Dieu pour ce qu'il a fait, mais la louange, c'est bénir Dieu pour ce qu'il est. Hein? Donc, même si tu n'as pas vu, hein, bon, je suis sûr qu'en regardant dans ta vie, tu vas voir plein de fruits, mais tu ne le remercies pas spécifiquement pour quelque chose qu'il aurait fait aujourd'hui ou la semaine dernière, mais tu élèves son nom et tu le bénis à cause de qui il est, hein, de sa nature d'amour, de sa nature de bonté, de tout son caractère, et tu le bénis. Et ça, c'est aussi une façon de bénir avec notre bouche. Et ça attire la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu a de la joie quand tu le remercies. Imagine, je ne sais pas, tous ceux qui sont parents ici, vous offrez un cadeau, vraiment, vous avez pris de la peine, vous avez investi de l'argent pour offrir un cadeau, vous pensez qu'il va vraiment bénir votre enfant, c'est peut-être quelque chose qu'il demandait depuis, et c'est le jour de Noël, et le cadeau, où est l'enfant, où est le cadeau, et, oh, vous êtes tellement content, oh, ça fait des années que je voulais lui acheter ce cadeau, mais je n'avais pas les moyens, mais on a fait vraiment le maximum maintenant, et il a ce cadeau qui... Et puis votre enfant, il ne fait même pas cas du cadeau, il ne vous dit même pas merci. Je pense que vous ne serez pas très content. Hein. Mais imaginez Dieu quand on oublie de le remercier pour ce qu'il fait et pour le remercier pour qui il est. Mais par contre, une bénédiction vient en retour à chaque fois que... Parce que la première bénédiction, c'est ton cœur se réjouit parce qu'il y a l'approbation du Saint-Esprit sur toi. Bénir moi, Dieu, mais on a dit d'abord Dieu et puis moi-même, et bénir les hommes. Choisir enfin d'abandonner la médisance pour choisir l'honneur. Vous savez, je pense qu'il y a vraiment quelque chose, je pense que c'est la nature de l'homme, c'est le péché, mais il y a vraiment quelque chose sur notre pays. On a un esprit de critique, très fort. Très fort, une tendance à voir ce qui ne va toujours pas chez l'autre, dans la situation de l'autre, dans la situation du pays, plutôt que de voir ce qui est bon et ce qui est juste. Moi, ça m'a beaucoup frappé parce qu'on a fait 2 ans au Danemark, comme je vous l'ai dit, et j'étais frappé qu'il y avait un esprit complètement contraire au Danemark. Bon, je ne dis pas que les gens sont parfaits, loin de là, mais il y avait beaucoup de gens en venaient encourager, disaient « Oh, c'est bien ce que tu as fait, frère, c'est bien, je vois telle qualité en toi, je t'encourage à continuer, etc. » Et j'étais frappé de ça, parce qu'on est tellement immergé dans un monde de critiques qu'on ne réalise pas qu'il y a autre chose, il y a une bénédiction que l'on doit cultiver. Et si tu as envie, toi, de recevoir des encouragements, mais commence par encourager l'autre. Alors, je ne dis pas de flatter l'autre, mais reconnais et apprends à reconnaître ce que Dieu a mis dans la personne qui est à côté de toi. Vous savez, je peux croire, même pour un couple, même si tu as des luttes dans ton couple, même si tu as des luttes avec ton enfant, le jour où tu es prêt, malgré ce qui s'est passé, à dire « Je bénis. Et Seigneur, je te remercie pour l'épouse ou l'époux que tu m'as donné. Je te remercie pour l'enfant que tu m'as donné. » Spirituellement, tu vas changer beaucoup de choses. Même si ton enfant il n'entend pas, même si ton épouse n'entend pas avec son oreille. Mais Dieu entend, et les puissances et les autorités entendent. Et tu délies quelque chose. Et c'est tellement puissant d'appeler la bénédiction sur ton épouse. Et tu vas voir, peut-être pas tout de suite, mais tu vas voir le fruit et tu seras aussi béni en retour. Et appelle cette bénédiction sur les gens que Dieu a mis près de toi. Appelle ces bénédictions sur les gens avec qui tu travailles, sur ton lieu de travail. Ce qu'a dit notre frère tout à l'heure. Voilà, il luttait, parce que dans le travail, il y a des clashs. Mais... le jour où il a décidé de prier et de bénir, le Seigneur a transformé l'atmosphère spirituelle. Et ça, c'est une clé, une arme que Dieu donne pour nos vies. Choisir de bénir les autres. Et maintenant, le dernier point, enfin, qui est en plusieurs points, mais le dernier gros point que j'aimerais voir, c'est... Tu vas dire, ah, c'est bien frère, oui, moi je voudrais bien bénir avec ma bouche, etc. Mais vous savez, la parole dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans Matthieu 12, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu es en colère, quand ton cœur est en colère, c'est difficile de faire sortir des paroles de bénédiction. Hein. Et généralement, ce n'est pas une voix toute douce qui vient « Oh ma chérie, tu sais, comme je t'aime ». Non, c'est « Oh, c'est la colère qui sort ». Donc c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. D'accord ? Quand tu es dans la joie, bah, ce n'est pas des lamentations qui sortent de toi, c'est la joie qui sort de toi. Donc on est d'accord là-dessus. Donc c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et aussi, une autre parole dans le Proverbe 4, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. » Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que oui, amen, on veut bénir avec notre bouche, mais le combat n'est pas seulement au niveau de ta bouche, il est au niveau de ton cœur. Et tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Le problème, c'est que le cœur, voilà, tu vas me dire, « Ah, mais c'est bien ce que tu dis, mais tu ne connais pas ma vie. » Tu ne sais pas les frustrations que j'ai chaque jour, tu ne sais pas les trahisons, tu ne sais pas les déceptions, tu ne sais pas les offenses, tu ne sais pas tout ce qu'on m'a fait. Et ça, c'est vrai que dans le naturel, ça ne donne pas envie de bénir. Surtout, ça ne donne pas envie de bénir les gens qui t'ont fait ça. Mais j'ai l'habitude de prendre cette image, une image que Dieu m'avait donnée. Est-ce qu'ici, il y a des gens qui ont déjà été mordus par un serpent? Non? Moi non plus. Non, j'en ai pas encore trouvé. Je connais une personne au Burkina Faso. Une personne qui travaillait et elle a été mordue par un serpent. Elle a marché toute la nuit. Elle est arrivée dans un état comateux, à bout de force. Elle a été hospitalisée. Elle a été sauvée. Donc vous voyez, bon, cette personne a été sauvée. Mais j'imagine, quand le serpent te mord, bon, supposons qu'il te mord à la main, c'est quand même les... Ah, j'oublie à chaque fois. pas les crocs, mais les... Non, c'est un autre mot, c'est pas les crocs, c'est les crochets, voilà. Chaque fois j'ai du mal avec ça. Les crochets du serpent entrent dans ta peau, dans ta chair, profondément. Ça doit faire très mal, ça, hein. Je ne sais pas, mais si vous avez déjà essayé de planter une fourchette dans votre main, enfin, par inadvertance, hein. Par inadvertance, ça fait mal. Ou le couteau dérape quand vous coûtez le pain, et ça fait mal. Donc les crochets du serpent, ça doit faire très mal. Mais finalement, est-ce que quelqu'un est mort parce que les crochets du serpent lui ont fait très mal dans la main? Non. Qu'est-ce qui va te tuer avec le serpent? Le venin, c'est quand il va remonter jusqu'au cœur. Et pour moi, cette image me parle beaucoup parce que le Seigneur dit, voilà, le serpent, c'est qui? C'est Satan. Et il va utiliser toute occasion pour te mordre et pour te faire éprouver des difficultés dans ta vie. Il va utiliser des hommes, il va utiliser des circonstances, peut-être même aussi ton péché, et il va essayer de te mordre par l'offense. Et ça fait mal. Ça fait mal quand tu es trahi par quelqu'un qui t'avait placé ta confiance. Quand quelque chose se passe et c'est une déception complète, ça fait très mal. Mais c'est pas ça qui va te tuer. C'est pas ça. Cette blessure, elle fait très mal, mais c'est pas ça qui va te tuer. Ce qui va te tuer, c'est si tu laisses le venin de l'amertume monter jusqu'à ton cœur. Et ça va te tuer. Et ça, c'est ce que l'ennemi veut faire. Il veut pas simplement blesser les gens avec l'offense. Il veut les tuer avec le venin de l'amertume. Et donc, notre cœur, nous devons le garder contre le venin de l'amertume, parce que c'est ça qui va te tuer. Et tu dois, quelle que soit l'offense, et là je ne veux pas juger, parce que je sais qu'il y a des offenses qui nous dépassent, mais quelle que soit l'offense, vraiment, Dieu nous interpelle à ne pas cultiver la blessure, mais à accepter la guérison de Dieu. Et souvent cette guérison de Dieu, tu sais, tu as souvent un choix dans ta vie. C'est soit tu cultives l'amertume toute ta vie, soit à un moment donné tu acceptes de pardonner, de libérer et d'être guéri. Et c'est dur. Mais au bout d'un moment, peut-être on peut choisir de cultiver l'amertume. Mais il y a une image que le Seigneur m'avait donnée il y a de nombreuses années. Et je voyais une armée. Et je voyais un général qui passait en revue l'armée. Vous savez, un peu comme Napoléon. Et je voyais que chaque soldat s'avançait, tu sais, et voilà, le général venait, il s'enquérait auprès des soldats, et chacun avançait. Et il disait pas, oh, tu sais, dans l'armée normale, surtout du temps de Napoléon, peut-être quelqu'un serait arrivé avec le bras coupé, il aurait dit, oh, tu sais, c'est à Austerlitz que j'ai perdu mon bras. Et Napoléon lui aurait dit, oh, fidèle soldat, voilà, je te donne une médaille pour ça. Mais dans cette image, je voyais que les gens s'avançaient et disaient, voilà, j'étais blessé ici, mais tu m'as guéri. Et le général de l'armée, c'était le Seigneur. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, sache que dans ta vie, tu ne seras jamais justifié devant Dieu par tes blessures. Des fois, nous avons tendance à croire, oh Seigneur, tu vois, ma vie est tellement dure, j'ai tellement souffert. Et on pense que ça va nous justifier devant Dieu. Mais la blessure ne te justifie jamais devant Dieu. Mais elle te permet de recevoir sa consolation et sa guérison. Et ce qui va te justifier devant Dieu, c'est d'accepter sa guérison, d'accepter de pardonner, d'accepter d'être pardonné. Et ça change toute ta perspective. Et très souvent, on préfère cultiver l'amertume parce qu'on veut se justifier. Mais en voulant te justifier, tu ne recevras pas la justification de Dieu. Par contre, si tu renonces à te justifier, tu renonces et tu acceptes de lâcher le pardon, alors Dieu pourra te justifier et guérir ton cœur. Et le venin ne montera plus jusqu'à ton cœur, jusqu'à rendre ton cœur dur comme la pierre. Mais tu seras libéré. Et je peux vous le dire parce que je n'ai pas le temps de partager ça, mais j'ai expérimenté ça dans un domaine de la vie très, très clair, très, très, très concret. Et où le Seigneur avait mis en lumière ça. Un domaine où, je ne peux pas dire que c'est quelque chose qui me taraudait chaque matin, mais quand le Seigneur a mis le point, il a dit, là, il faut que tu lâches, là, il faut que tu pardonnes. Et ça a été un combat. Et j'ai dit, mais tu, je ne peux pas pardonner ça, Seigneur. Et c'est vrai, je ne pouvais pas. Mais décide de pardonner et le Seigneur te donnera la force de pardonner. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au moment où j'ai dit oui, je suis prêt à pardonner, mais donne-moi la force. Le Seigneur m'a donné la force sur le coup et le Seigneur a donné la force pour être guéri dans les jours et les semaines qui ont suivi. Décide et Dieu donnera la force. Décide et Dieu donnera la force. Autre chose donc, la guérison, j'ai beaucoup de choses encore à dire, mais on va essayer d'aller plus vite. En tout cas, je dirais qu'il y a trois choses. Quand tu es blessé et offensé dans ton cœur, il y a bien sûr le pardon. Mais souvent, le pardon, ce n'est pas la première chose que tu vas venir. Oh, le frère m'a, lâchement trahi, etc. J'ai été trahi par mon épouse, etc. Mais c'est, tu ne vas pas tout de suite dire « Oh, mais je pardonne ». Non, la première chose souvent dont tu as besoin, c'est la consolation. Et là, je voudrais souligner, il y a une triple œuvre qui vient de la Trinité. Il y a d'abord la consolation du Saint-Esprit. Quand tu es blessé, quand tu es offensé en profondeur, hein, je ne parle pas des petites vêties de chaque jour, mais en profondeur, viens près du Saint-Esprit chercher la consolation de Dieu. Le Saint-Esprit, le consolateur, il va comprendre tes larmes, il va sécher tes larmes. Et il va mettre la consolation de Dieu dans ton cœur. Il ne va pas enlever l'offense, mais il va apporter la consolation et le baume de Dieu sur la blessure. Hein, comme un baume qui amoindrit la douleur de la blessure. Et ça, c'est la consolation du Saint-Esprit. Cultive la consolation du Saint-Esprit. Quand tu es offensé, ne pars pas à crier ton offense et ta blessure à droite et à gauche, mais va près du Saint-Esprit et demande la consolation de Dieu, le Saint-Esprit consolateur. Cultive la consolation du Saint-Esprit. Il y a un texte dans Ézéchiel 47 qui nous parle de la fleuve de Dieu qui sort du temple. Et très vite, il s'approfondit ce fleuve. Au départ, la personne qui est utilisée, le prophète qui est là, il marche et il y a jusqu'à ses chevilles, et après jusqu'à ses genoux, et après jusqu'à ça. Et un kilomètre et demi plus loin, le fleuve est déjà, il faut y nager. Est-ce que vous avez déjà vu un fleuve comme ça? Dès sa source, il devient un grand fleuve. Ça, c'est le mystère de Dieu. C'est le mystère du Saint-Esprit qui est un fleuve qui grandit tellement vite en consolation, à condition que tu ne restes pas sur la berge, mais que tu acceptes de rentrer dans le fleuve. Et sur ce fleuve, il y avait des arbres des deux côtés du fleuve, et avec les feuilles et les fruits étaient utilisés pour la guérison des nations. Les fruits de la guérison de ta blessure, c'est dans la consolation du Saint-Esprit. Il est dit que ce fleuve, il va jusqu'à la mer morte. Et peut-être certains connaissent la mer morte ici. Et c'est une mer vraiment morte, parce qu'il y a tellement de sel, il n'y a pas un poisson, il n'y a rien. Mais il est dit que quand ce fleuve atteindra la mer morte sera transformée et elle deviendra riche, débordera de poissons. Est-ce que tu as des domaines de stérilité dans ta vie? Demande-toi s'il n'y a pas un domaine où c'est l'amertume et la blessure qui a empêché la fécondité de Dieu de venir. Et laisse la consolation du Saint-Esprit venir. Laisse le fleuve de l'Esprit venir ranimer ce qui est sur le point de mourir. Laisse-le venir purifier de l'amertume et apporter la fécondité de Dieu et la bénédiction de Dieu dans ta vie. Et pour cela, il faut lâcher certaines choses. Et je ne dis pas que c'est facile. Je suis certain qu'ici, il y a des personnes qui ont été profondément blessées, dramatiquement blessé, mais mets ça devant Dieu, viens chercher la consolation du Saint-Esprit et accepte de pardonner. Tu sais, rappelle-toi toujours que Jésus, c'est à la croix, au moment où il était sur le point de mourir, où tout le monde se moquait de lui, qu'il a dit « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et si Jésus a pu pardonner, alors qu'il était coupé de son Père, alors qu'il portait tout le poids du péché, en dehors des clous, tout le poids du péché sur lui, et cette parole est sortie, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Si ce Jésus a été capable de pardonner dans cette extrémité, combien de plus il peut te donner la force de pardonner dans ton extrémité? Laisse le pardon de Dieu couler et cultive cette consolation du Saint-Esprit. Donc la consolation du Saint-Esprit, l'approbation du Père. L'approbation du Père. Cette même approbation qui a dit à Jésus, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection et en qui est le sujet de ma joie. Réfugie-toi, quand tu n'es pas compris par les hommes, quand tu penses avoir bien fait, bon, assure-toi que tu as bien fait, demande à Dieu, mais quand tu sais que tu as bien fait, mais tu récoltes l'ingratitude des hommes, tu récoltes le rejet des hommes, viens te réfugier dans la consolation du Saint-Esprit, mais viens te réfugier dans l'approbation du Père. Vous savez, j'ai l'habitude de dire une phrase, pour moi, celui qui est approuvé n'a pas approuvé. Celui qui est approuvé de Dieu, il n'a pas besoin de prouver aux hommes. Et souvent, on veut prouver aux hommes. On veut prouver qui on est, on veut prouver qu'on a bien fait, mais celui qui est approuvé de Dieu, il n'a plus besoin de prouver. Tellement de personnes qui cherchent par les activités, par toutes sortes de bonnes œuvres, toutes sortes de comportements à prouver, qui sont quelque chose à prouver. Mais Dieu dit, ne cherche pas à prouver, mais réfugie-toi dans mon approbation. Celui qui est approuvé n'a plus approuvé. D'accord ? Et dans l'approbation du Père, tu vas trouver la stabilité, parce que tu n'as plus besoin d'avoir à t'agiter pour prouver toutes sortes de choses. Tu vas trouver le repos et tu vas trouver la croissance. Rappelez-vous de cette histoire de Daniel avec ses amis. Vous savez, il décide d'honorer Dieu et il décide de ne pas manger les plats de l'empereur parce qu'ils étaient sacrifiés aux idoles. Et ils ont dit, on ne veut pas se souiller avec ce qui est sacrifié aux idoles. Et ils ont décidé de manger que des légumes. Et on leur a dit, oh non, si vous faites ça, vous allez devenir tout maigre et l'empereur sera fâché. Et finalement, quelqu'un a accepté de leur servir ça pendant 3 semaines. Et au bout des 3 semaines, leur face rayonnait plus que s'ils avaient mangé toute la viande et toutes les bons mets de l'empereur. Pourquoi ? Parce que c'est l'amour de Dieu et l'approbation du Père qui les nourrissait, les faisait croître et luisait sur leur face et dans leur cœur. Réfugie-toi dans l'approbation du Père, afin qu'il fasse luire son amour, sa face, et sa santé, sa bénédiction dans ta vie. La consolation du Saint-Esprit, l'approbation du Père et l'œuvre du Fils à la croix, l'œuvre du Fils qui a tout porté pour toi. Mais il faut accepter que cette œuvre du Fils devienne réalité en ma vie. Tu l'acceptes le jour où tu acceptes Jésus, tu reconnais ce qu'il a fait, il a porté ton péché, mais souvent il faut repasser par la croix. Et il faut accepter de crucifier certaines choses à la croix, de renoncer à certaines choses à la croix, à ce que tu pensais bon pour ta vie, à ce qui était peut-être l'objet de tes rêves, mais Dieu a un rêve meilleur pour toi. Crois-moi, quand Dieu te demande de sacrifier ton rêve, c'est soit pour te le redonner de façon bien plus merveilleuse, soit pour te donner quelque chose de meilleur. Bon, tu ne le verras peut-être pas du jour au lendemain, mais Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Donc la croix où il faut tout le temps revenir, accepter de mourir à notre ressentiment, à notre propre justification, à nos plans, mais accepter aussi de ressusciter en nouveauté de vie, avec un cœur qui comprend quel est l'amour du Père, qui comprend quel est le plan de Dieu et qui accepte d'entrer dans le plan de Dieu parce qu'il sait que c'est le meilleur et parce que ce plan de Dieu, cette rêve de Dieu devient une joie et une force pour nous pour aller de l'avant. Amen. Et je passe encore juste 2-3 points, je sais qu'on est 5 minutes. Un autre secret, je dirais, une autre clé pratique pour cultiver la bénédiction, c'est de partager ce que tu as reçu de Dieu. Partage ce que tu as reçu de Dieu. Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu ? Et quiconque ici a reçu quelque chose de la part de Dieu. Peut-être même tu ne connais pas Dieu, et alors je pense qu'il t'invite aujourd'hui à faire sa connaissance, mais peut-être même tu as reçu un don dans ton travail. Un don d'administration. Peut-être le Seigneur t'a élevé en position. Qu'est-ce que tu fais de ça ? Partage ce que tu as reçu pour être une bénédiction. Tu sais, quand le Seigneur élève quelqu'un en position, ça a été dit tout à l'heure, c'est pour qu'il devienne un canal de bénédiction. On doit bien comprendre ça. Si tu es élevé en position dans ton travail, même simplement, ne va pas chercher très loin dans ta famille. Si Dieu t'a mis en responsabilité sur ta famille, c'est pour que tu sois un canal de bénédiction. Ce n'est pas parce que tu es meilleur que d'autres. Des fois, nous croyons, oh, j'ai une super promotion, c'est vraiment que je suis le meilleur. Bon, bien sûr, je suppose que si tu ne travailles pas dans ton travail, si tu n'es pas digne de confiance, tu as peu de chances d'être élevé. Mais ce n'est pas ton mérite qui t'élève, c'est parce que Dieu reconnaît ce que tu le laisses faire en toi et il veut t'élever pour être un canal de bénédiction pour d'autres. Et ça, c'est une clé. Et si c'est vrai dans ton travail, combien plus en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à des canaux de bénédiction, à exercer l'autorité de Dieu pour bénir. Mais comprenons que quand Dieu nous élève, au sein de son église, au sein d'un travail, au sein de ma famille, quand il t'élève en autorité, rappelle-toi toujours que c'est pour être un canal de bénédiction. Le jour où tu ne comprends pas ça, où tu laisses ça de côté, tu risques de redescendre la pente très vite. Tu risques de redescendre la pente très vite. Parce que si Dieu t'a placé là, c'est pour être un canal de bénédiction. Et donc, partage ce que tu as reçu de Dieu. Vous savez, la consolation du Saint-Esprit, c'est expérimenter ce que le Saint-Esprit fait pour moi. Et le Saint-Esprit, on l'a vu, c'est le consolateur, mais c'est aussi le paraclès, celui qu'on appelle près de soi pour secourir et pour être notre défenseur, notre avocat. Et quand tu expérimentes ça de la part du Saint-Esprit, quand tu es consolé, tu es capable de consoler. Et ton rôle, et ce que Dieu t'appelle à faire, c'est d'être à ton tour, de te jouer à ton tour le rôle du Saint-Esprit pour quelqu'un d'autre. De jouer le rôle du Saint-Esprit. Vous savez qu'en Job, il y a une histoire dans la Bible, c'est Job, hein, il avait besoin d'être consolé. Qu'est-ce que sont les consolateurs qui sont venus? Les amis de Job. Il parle d'une consolation. Il l'enfonçait de plus en plus au fur et à mesure que ça avance. Hein, au début, il semble avoir une sorte de compassion. Mais qui est le consolateur de Job, finalement? C'est quand Dieu lui parle. Quand le Saint-Esprit parle et lui révèle son plan, il reprend Job, mais il le reprend, mais il ne l'écrase pas. Et il le redresse et le relève. Et c'est ce que nous devons être autour de nous. C'est ce que Dieu t'appelle à être dans ta famille. C'est ce que Dieu t'appelle à être au sein de l'Église. C'est ce que Dieu t'appelle à être dans ton travail. Sache reprendre quand il faut reprendre, mais sache encourager à chaque fois que c'est nécessaire. Encourager, relever, fortifier, édifier, parce que c'est ça l'Esprit de Dieu agissant en nous. C'est cet Esprit que Dieu veut voir régner en nous. Et quand tu partages, sache que Dieu est le Dieu qui multiplie. Rappelle-toi d'un petit enfant, parce qu'il a partagé, je ne sais jamais parce qu'il y a deux histoires, si c'est 5 pains de poisson, dans d'autres histoires c'est le nombre est différent, il y en a une je crois c'est bien 5 pains et 2 poissons, parce qu'il a accepté de donner tout ce qu'il avait à manger, ce qu'il avait reçu, c'était pas lui qui avait travaillé pour ça, il avait reçu ça de ses parents, et il y a des choses que tu as reçues de ton Père Céleste, et parce qu'il a accepté de donner tout ça, Dieu a multiplié, et il y a eu de la nourriture pour tout le monde, et il restait des restes. Et c'est ce que Dieu nous dit. Quand tu acceptes de partager ce que tu as reçu de Dieu, ce que tu as reçu par son esprit, Dieu est le Dieu de la multiplication. Et il va multiplier. Tu vas te dire, oh mais avec ce que j'ai reçu de Dieu, je n'ai pas grand-chose, je ne peux pas faire grand-chose, je peux aider une personne. Mais Dieu va multiplier. Dieu va bénir cette personne. Dieu va utiliser le peu que tu as donné pour le multiplier et faire de toi une bénédiction. Partage ce que Dieu t'a donné et tu vas le voir se multiplier. S'exhorter les uns les autres. Alors il y a beaucoup de passages. Colossiens 3:16, 1 Thessaloniciens 5:11, exhortez-vous les uns les autres par des chants, des hymnes, toutes sortes de choses par lesquelles tu peux t'encourager, vous pouvez vous encourager simultanément. Combien de fois il y a de la joie quand tu es avec un frère ou avec une personne et tu pries, ou simplement, même dans une relation, pas forcément d'église, mais tu partages avec quelqu'un et tu lui parles de la part de Dieu, peut-être pas avec des mots religieux, mais tu l'encourages pour qu'il est, tu l'encourages, et il y a vraiment de la joie dans ton cœur, et il y a de la joie dans le cœur de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est à notre portée chaque jour, s'exhorter les uns les autres, et nous verrons le Dieu qui multiplie, agir. Prier pour l'autre, ça c'est une façon forte de bénir. Notre frère a dit, voilà, Dieu lui a pas dit, oh va voir le frère et dis-lui qu'il est formidable, il a dit, prie pour lui. Et après, ils ont pu parler. Et souvent, la prière, c'est le premier pas pour enclencher la parole, la relation et la bénédiction. Prier pour l'autre, dans ton esprit, prier avec l'autre. Ça, c'est tellement important aussi. Prier avec l'autre. Des fois, tu dis, oh, pff, ce frère-là, j'ai pas trop envie de prier avec lui. Hein. Je me souviens très bien, quand j'étais à l'école biblique, l'équipe d'encadrement, ils avaient eu l'idée qu'on tire des noms. Ils avaient dit, voilà, on va tirer tous les noms des élèves. Non, on met le nom des professeurs. Et chacun devra prier pendant un mois pour ce professeur. Et donc, le panier passe. Et puis, je tire un nom. Et c'était là. Pourtant, moi, je suis quelqu'un qui s'entend à peu près avec tout le monde, à peu près. Il faut demander à ma femme. Mais il y avait un professeur que je ne pouvais vraiment pas m'entendre avec elle. Oh là 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 là. J'avais toujours vraiment... Ça passait pas le courant. Et naturellement, je prends ce nom dans la corbeille. Je dis, oh non, un mot à prier pour ça. Et Dieu m'a montré quelque chose. Et ça a été pareil. Après, ils ont fait ça avec les étudiants, les noms des étudiants. Et il y avait aussi un seul étudiant que je ne pouvais pas voir dans l'école. Et c'est ce nom que j'ai tiré. Donc voilà, Dieu veut dire quelque chose là. Pense à prier pour tes ennemis. Pense à prier aussi peut-être avec la personne. Bon, peut-être sans aller chercher ton ennemi, mais oh, tu n'as pas trop d'affinité avec cette personne. Mais laisse Dieu éclairer ton regard, laisse Dieu éclairer ton cœur et te montrer la beauté qu'il a mis dans cette personne. Vous savez, souvent parce que nous ne bénissons pas, nous passons à côté de la beauté de Dieu dans une autre personne. Mais quand tu apprends à la connaître, et la prière souvent c'est une clé pour ça, tu apprends à connaître la beauté de Dieu chez une personne. Et pour finir, un dernier verset, Jacques 5:18, donc on n'a pas lu tout, non c'est 3:18, pardon, Jacques 3:18, donc il y avait toute la partie, première partie de Jacques sur l'eau, la source purifiée, etc. Source de bénédiction, pardon. Jacques 3, 18, je vous le lis. Décidément, je saute, voilà, et Jacques. Jacques 3, 18. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Dieu nous appelle à semer dans la paix cette semence qui va porter un fruit dans ta vie et un fruit dans la vie de beaucoup de personnes. Hein? Heureux ceux qui procurent la paix parce qu'ils seront appelés fils de Dieu, fils et filles de Dieu. Voilà, je voulais finir avec ça. Donc apprenons à cultiver la bénédiction. Alors, on a fait tout un cheminement sur la malédiction et Dieu, je pense, a montré des choses et a commencé à libérer des choses. Mais si tu veux que la victoire de Dieu soit pleinement accompli en toi, Et si tu ne veux pas avoir à revenir sans arrêt sur des périodes de malédiction, saisis-toi de la bénédiction de Dieu et cultive cette bénédiction. Il y a cette parole dans la parole qui dit, voilà, quand une maison, un esprit a été chassé d'une maison et il revient, il la trouve ornée et décorée, il va chercher sept esprits plus méchants que lui et ils reviennent occuper la maison. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu décores ton cœur et ton intérieur de l'extérieur de la religion, ce n'est pas ça qui va faire fuir les mauvais esprits. Mais si Jésus habite dans ta maison et si le Saint-Esprit règne, crois-moi, et si tu cultives ça chaque jour de ta vie, dans la bénédiction, alors les mauvais esprits, ils vont fuir au loin. Et tu n'auras pas tout le temps à lutter contre la malédiction. Je ne dis pas que tu n'auras pas des épreuves et des difficultés dans ta vie, mais quelque chose aura été... tu auras triomphé dans différents domaines de ta vie, de toute malédiction, et tu seras dans cette dynamique de bénédiction, avec des épreuves, avec des persécutions, avec des difficultés aussi de la vie quotidienne, mais avec le sceau de la bénédiction, de la victoire de Dieu qui va t'accompagner et accomplir l'œuvre et l'appel pour lequel il t'a créé. Et ça, c'est important. Amen. On va prier. Oui, Seigneur, voilà, tu vois, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, Seigneur, et Père, je prie que dans tout cela, Seigneur, nous ne soyons pas noyés, mais que nous sachions saisir les clés que tu donnes pour chacune de nos vies. Oui, merci pour ces clés dans tout ce qui a touché à la malédiction et à briser la malédiction, et merci parce que je sais que tu as déjà accompli beaucoup de choses, Seigneur, et que tu vas en accomplir d'autres encore. Mais merci aussi pour ces clés de cultiver la bénédiction. Seigneur, nous voulons nous rappeler que tu es le jardinier. Tu es le jardinier. Et nous savons que si nous sommes en accord avec le jardinier, si nous le laissons entrer dans le jardin de nos cœurs, si nous ne lui fermons pas des accès, mais nous lui ouvrons pleinement nos cœurs, si nous laissons souffler le vent de l'Esprit, et nous laissons le vent de l'Esprit arroser notre jardin, renverser ce qui doit être renversé, arracher ce qui doit être arraché, mais planter, émonder, et faire croître, et faire porter du fruit à tout ce qui doit porter du fruit. Alors, Seigneur, nous savons que tu vas nous regarder et nous aurons le sourire de ta face sur nous. Seigneur, tu vois, c'est cette parole en hébreu, c'est ça. Et il a vu le sourire de Dieu sur lui. Et Père, je prie ce sourire de Dieu sur les vies de tes enfants ici. Je prie le sourire de Dieu sur les hommes et les femmes qui ont entendu cette parole qui porte la vie. Je prie que nous soyons de ceux aussi qui saisissent ce sourire de Dieu et qui transmettent ce sourire de Dieu autour de nous, qui sont capables de porter la parole de bénédiction. Alors, avec peut-être le peu de force qu'ils ont, avec le peu qu'ils ont reçu de toi ou le peu qu'ils croient avoir reçu de toi, mais tu vas multiplier ce peu en eux et tu vas en faire un outil de bénédiction à la mesure de ce qu'ils donneront et partageront. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de la multiplication. Seigneur, merci parce que nous croyons que quand nous plantons une semence de bénédiction dans la vie d'une personne, tu es capable de multiplier cette semence par 100 et de faire éclater ta gloire dans la vie de cette personne. Seigneur, merci. Merci d'encourager chacun à continuer de semer dans sa propre vie cette bénédiction, à continuer de semer cette bénédiction dans la louange et l'action de grâce envers Dieu et à continuer de semer cette bénédiction en portant les personnes que tu mets autour de nous, peut-être des personnes difficiles, peut-être des situations difficiles dans nos familles, des situations d'époux, d'épouses, d'enfants, de pères, de parents. Seigneur, mais là-dedans, Jésus, nous croyons que tu es plus que vainqueur chaque fois que nous te laissons et nous laissons ton Saint-Esprit accomplir et libérer sa bénédiction. Alors merci, Seigneur, de nous remplir de ce désir de bénir et que nous voyons ta bénédiction multipliée au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on a été un peu long, désolé. Enfin, j'ai été un peu long.
Voilà, c'était très riche, je pense, très riche, très complet. Nos orateurs se complètent.